Vous écoutez RTL.
Quelles sont les taxes les plus farfelues du monde ?
RTL.
Certains gouvernements regorgent d'imagination en appliquant des taxes à peine croyables qui méritent qu'on s'y intéresse de plus près.
La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Curiosité. On est ensemble jusqu'à 15h. Une émission que je vous présenterai exceptionnellement en solo. Un gros bisou à Anaïs Bouton que l'on retrouvera lundi. Bon, vous l'avez compris, comme on est parfois un peu maso à RTL, on a choisi de s'offrir quelques taxes supplémentaires. Bonjour Jean-François Nimsgern.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes spécialiste en droit fiscal. Vous avez enquêté sur les impôts les plus improbables de l'histoire. Tiens, ce rap-tout signé des inconnus.
Partout, même quand tu joues.
Après la sortie, les trois humoristes ont eu droit à un contrôle fiscal. Ça vous surprend, ça ?
Pas du tout, pas du tout. Alors ça se pratique de moins en moins, il faut quand même le reconnaître. Mais il fut un temps pas très éloigné où les contrôles punitifs existaient et étaient de notoriété publique. Un ancien ministre qui était très connu pour ça, on ne donnera pas son nom évidemment.
Ça commence par un chat et
ça se termine par...
Voilà. Ça se termine par
on
un
l'a pas dit, mais...
mais presque. Donc juste une syllabe.
C'était de notoriété publique.
Oui. Alors, on va dire un mot quand même de cette polémique actuelle sur les prix des carburants avant de partir dans l'histoire et de faire un tour du monde des taxes les plus dingues. Est-ce que les carburants français sont plus taxés que les autres en Europe ?
Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, c'est compliqué de faire vraiment des comparaisons parce qu'évidemment, le prix du carburant n'est pas le même d'une station-service à l'autre, du moins en France. Mmh. J'ai regardé ce matin un site de comparatif de carburant. J'ai 35 centimes d'écart pour la même chose à 5 km d'écart.
Moralité, allez sur les sites et
voilà, faites attention un petit peu. Plus, voilà, ouais. Ça peut valoir le coup. Après, vous avez des pays où le prix du carburant est peu taxé et uniforme, donc c'est facile. Par exemple, le Luxembourg. L'essence est à 1,28, le diesel est à 1,16, tarif de ce matin. Mmh. Donc le Luxembourg est assez peu taxé, l'Espagne est moins taxée que la France, mais la plupart des grands pays voisins, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, on est au même taux, au même prix qu'en France. Mmh. Après, un prix bas, si vous voulez, le prix le plus bas dans l'Union Européenne, c'est en Bulgarie. Les Bulgares payent leur essence 1 euro le litre.
Mais enfin, avant... Donc là, ma première réaction, c'est de dire chouette, ils ont de la chance.
Oh, bah, pas tant que ça, parce que le salaire moyen là-bas est de 350 euros. Donc vous faites un plein de 50 litres, c'est 15% de votre salaire mensuel. Vous imaginez qu'en France, ça ferait le plein à presque 300 euros.
Ouais. D'accord.
Donc ils ne sont pas si heureux que ça.
Il faut relativiser les chiffres. Est-ce que les taxes, est une maladie bien française ?
Alors, c'est une maladie française. Alors, à deux niveaux. Au niveau de la quantité globale de prélèvements obligatoires. Alors là aussi, suivant des questions de périmètre, bon, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats, mais on va dire on est dans le top 3 mondial. En termes de points de prélèvement obligatoire, on se bat avec les Suédois et les Norvégiens, généralement. Et donc, c'est juste une question de périmètre. Et puis, on a une particularité française, c'est ce qu'on appelle les taxes à faible rendement. C'est-à-dire, on aime bien, en France, créer un tas de petites taxes. Alors, il y a une étude de l'inspection des finances qui date de 2015. Les chiffres sont peut-être plus exacts à l'unité près, mais ça donne un ordre de grandeur. Ils avaient répertorié 250 taxes, dont 192 sont considérés à faible rendement.
Mais c'est
rapporte moins de 100 millions d'euros par an.
C'est quoi l'exemple le plus absurde pour vous ? Vous en donnez un seul.
Il y en a des centaines. Et juste le point que je voulais indiquer, c'est est-ce que vous savez combien il y a de taxes de faible rendement en Allemagne ?
Ben non, vous allez nous le dire.
3.
Ah, et nous, c'est plus de 200.
192.
192 aujourd'hui.
En Angleterre et aux Pays-Bas, 0.
Bon. D'accord.
Donc, vous voyez,
il y a du boulot.
Voilà, mais c'est toutes ces micro-redevances, des contributions additionnelles, etc., qui ne s'appliquent évidemment pas forcément à tout le monde tout le temps. Tout le monde ne paye pas ces 252 taxes. Mmh. Et surtout, on en crée en moyenne 7 par an.
Bon, allez,
on
commence notre tour du monde et notre historique des impôts improbables. C'est le livre que vous publiez aux éditions des Belles Lettres. Alors, ma préférée, c'est les portes et fenêtres. Ça a existé en France,
absolument.
Ça ?
Absolument.
À quelle époque et avec quelles conséquences ?
Alors, ça a été mis en place sous le Directoire. Donc, on est en 1798, donc entre la Révolution et Napoléon. Mm-hmm. Et avec des conséquences assez dramatiques, parce que la taxe était relativement élevée. Et donc, les gens étaient incités à construire, surtout évidemment les plus pauvres, étaient incités à construire des habitations avec le moins de fenêtres et de portes possibles. Et il y a un passage des Misérables où Victor Hugo recense 350 000 habitations qui n'avaient qu'une porte. Donc pas de fenêtre du tout, pas de lumière du jour, jamais. sauf
avec des conséquences sur la santé qu'on peut imaginer.
Bien évidemment. Ouais. Et alors les Anglais avaient fait ça d'une manière un peu différente, mais ils ont taxé les fenêtres, ils ont taxé le verre. Alors la taxe sur les fenêtres, on va en parler. Ouais. Ça a donné des conséquences assez amusantes. La taxe sur le verre, elle a eu les mêmes conséquences. Alors
ça veut dire quoi je vous reprends les conséquences les plus amusantes en Angleterre, parce que quand on cherche toujours nous les contribuables, on cherche toujours à contourner quand il y a une taxe qui nous semble absurde. Pour les portes et fenêtres, c'est quoi la conséquence?
Alors pour les Anglais, c'était que pour les fenêtres.
Ouais.
Et il y avait une taxe de base et puis deux catégories additionnelles suivant le nombre de fenêtres. Alors finalement, pour quelqu'un qui était un peu à l'aise, la taxe n'était pas très importante. Et donc l'idée, c'était de dire, moi je peux me permettre de payer 2 shillings, donc je veux un maximum de fenêtres pour montrer que j'ai de l'argent. Et vous aviez même des gens qui avaient des maisons donc, qui étaient déjà construites. Alors, ils pouvaient pas faire des trous dans les murs pour mettre des fenêtres, ils faisaient poser des fausses fenêtres en façade pour montrer aux voisins qu'eux avaient de l'argent.
C'était devenu un signe extérieur de richesse.
C'était comme le bling-bling à l'anglaise.
Ouais, c'est très drôle.
Absolument.
Bon, c'est un tour du monde des impôts les plus fous qu'on vous propose sur RTL. Méfiez-vous, on peut tout taxer. Papier peint, barbe, chapeau et même les cartes à jouer, on dirait du Boris Vian.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio.
Je le redis avec beaucoup de gravité sur votre antenne. Il n'y aura pas de nouvelles impôts.
RTL.
Pas de nouvelles impôts. Pas de nouvelles impôts.
14h, 15h.
Le montant moyen pour un couple avec deux enfants est à Paris de 481 €. Il est de 1 440 € à Argenteuil. Mais pourquoi ?
La curiosité est un vilain défaut.
C'est profondément injuste, cet impôt.
Voilà, les oreilles de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, doivent siffler en ce moment, pas seulement à cause de cette mise en onde de François Touchard. Si les fonctionnaires de Bercy sont facétieux, à mon avis, celle-là, ils l'enregistrent et ils l'écoutent en boucle dans leur bureau cet après-midi ou dans les jours qui viennent. En tout cas, il y a toujours cette manifestation qui est annoncée le 17 novembre. Et comme on peut aussi en rire dans la curiosité, on a décidé de vous faire découvrir les taxes les plus dingues de l'histoire avec Jean-François Nimsgern. Alors là, vous nous emmenez vraiment, on peut dire c'est un tour du monde de l'absurde qui commence par les Russes. On est à la fin du XVIIe siècle. Qui est au pouvoir et que veut-il changer dans son pays?
Alors c'est Pierre le Grand qui arrive au pouvoir, et Pierre le Grand est très féru de l'Occident. Il a voyagé dans sa jeunesse, il a été aux Pays-Bas, en France, en Angleterre, il a découvert l'Occident, il est revenu fasciné et s'est dit mais mon pays est encore au Moyen-Âge. Et il veut occidentaliser son pays à marche forcée, de gré ou de force. Ça doit passer. Il veut vraiment amener la Russie au niveau, entre guillemets, et au niveau de comportement aussi de l'Occident.
Et alors, il fait quoi?
Alors, il s'attaque d'abord à un symbole, qui est la barbe. Il faut savoir que les Russes orthodoxes ont porté une barbe longue. Mmh. Un siècle avant, Ivan le Terrible avait dit que se raser la barbe était un péché abominable. Donc, c'était quand même assez... ça allait assez loin dans la barbophilie.
Et donc, il veut taxer... Alors, les Russes qui portent la barbe, c'est
alors
ça?
Alors il se dit, bah, comme je ne peux pas aller les raser personnellement, leur couper la barbe de force, on va les inciter. Et on va les inciter, mais en leur faisant payer une taxe s'ils veulent garder leur barbe. Tout simplement.
Donc tout Russe barbu était taxé? Comment ça marchait?
Était soumis à une taxe, absolument, une taxe annuelle. Alors il recevait en échange un petit jeton qui représentait, sur lequel était gravée une barbe, était gravée, la taxe est payée, la barbe est un fardeau inutile. Et donc bon, il y avait des passes d'un jour pour les paysans qui rentraient en ville. Alors, il y avait une petite guérite à l'entrée des villes, pour un demi-copec, ils avaient le droit de garder leur barbe en ville pour une journée.
Et je crois que Pierre le Grand avait installé des barbiers à l'entrée de Moscou pour
gens qui avaient envie de se raser, qui voulaient profiter de l'occasion.
Et éviter de payer la taxe.
Alors, absolument.
Si je fais les comptes, dans ce studio de la curiosité, il y en a qui vont payer cher. William se cache la barbe. François Touchard, le réalisateur, se planque derrière ses manettes. Vous payez la taxe aussi.
Je paierai la taxe, je paierai une petite taxe.
Et Bastien Robin, une barbe d'un jour, ça va peut-être passer. Moi, je suis glabre, je suis le seul à ne rien payer. Dans votre histoire des impôts improbables, Jean-François Nimsgern, on découvre, on le dit, que nos ancêtres ont été inventifs. Mais si on inverse la chose, si un Français du Moyen-Âge débarquait aujourd'hui en 2018, laquelle de nos taxes lui semblerait la plus dingue?
Je pense que ce qu'il aurait le plus de mal à comprendre, et c'est assez logique, c'est des questions d'époque, c'est tout ce qui est la fiscalité dite comportementale. C'est-à-dire quand on taxe l'usage ou la consommation d'un type de produit.
Mmh. Le vin, par exemple.
Le vin, par exemple, qui à l'époque, bon, il pouvait y avoir des taxes sur le vin, mais c'était des taxes les mêmes que sur les autres produits. Il n'y avait pas de taxes spécifiques. Et puis même il y a 100 ans, ça aurait même pas, sans aller au Moyen-Âge, c'était parfaitement naturel, socialement admis de boire du vin, mmh. et personne ne voyait l'idée de pourquoi il faudrait en décourager la consommation. Aujourd'hui, vous avez l'Angleterre et le Danemark qui sont en train de plancher sur une taxe sur la viande rouge. Pour essayer d'en faire diminuer la consommation. On nous aurait dit ça il y a 20 ans, je pense qu'on aurait tous éclaté de rire dans ce studio. Mmh. C'est après, effectivement, la fiscalité. Ben, Pierre Legrand, aujourd'hui, on taxerait les barbus. Évidemment, bon, personne ne comprendrait le pourquoi du comment.
Surtout, il y en a de plus en plus, c'est la mode.
Tout à fait, je veux dire, c'est un certain quartier de Paris.
C'est une mesure très très discriminatoire.
C'est absolument certain. Mais voilà, la fiscalité comportementale, elle est liée à des comportements, donc que l'on juge socialement peu désirables et que donc on essaye de modeler avec la dissuasion fiscale. Et si je peux juste faire un bref aparté, c'est d'ailleurs l'un des problèmes de la taxe sur l'essence. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on dit tout à fait officiellement, on taxe l'essence pour dissuader les gens de prendre leur voiture. Sauf qu'en réalité, on consomme déjà beaucoup moins parce que les habitudes ont changé, parce que les véhicules ont changé. Donc les gens ont l'impression de se dire, mais non, finalement, c'est juste pour maintenir les niveaux de recettes de l'État et c'est sans fin.
Bon, alors, des monarques drogués aux impôts, il y en a eu beaucoup. Tiens, par exemple, Philippe le Bel, on est en France, on est au XIIIe siècle, les caisses sont vides. La suite de l'histoire, c'est dans un court instant sur RTL.
J'ai ma feuille d'impôt, j'ai toujours ma feuille d'impôt sur moi parce que j'ai un mal fou à comprendre, donc je vais tout le temps avec moi.
Jusqu'à 15h.
Déjà, moi, jamais je leur ai écrit, tous les ans, ils me répondent.
La curiosité est un vilain défaut.
Réduction d'impôt. Réduction d'impôt. Si vous n'êtes pas assujetti à l'impôt, vous n'avez droit à aucune réduction.
Sur RTL.
L'histoire des impôts improbables, c'est le thème de notre curiosité et le titre du livre de notre invité, le spécialiste en droit fiscal Jean-François Nimsgern. On est comme promis en France au XIIIe siècle. Que décide le roi Philippe IV, Philippe le Bel, à son arrivée au trône?
Mais alors, quand Philippe le Bel arrive sur le trône, les caisses sont vides, mais abominablement vides. Il n'y a même plus d'argent pour lever de nouveaux impôts. On a déjà tout pris. Alors il essaye d'abord de trafiquer un peu la monnaie, il met du cuivre dans les pièces d'or. Bon, après ça se voit. Et puis au bout du compte, il se dit que finalement pourquoi lever des impôts quand on peut tout simplement tout confisquer. Alors il s'attaque d'abord aux Juifs.
Donc ils confisquent leurs biens.
Absolument, ils confisquent tous leurs biens. Ouais. Et une première fois, alors il leur donne 8 jours pour racheter leurs biens. Donc c'est la moyen d'avoir leur argent, finalement. Mmh. Et 10 ans après, alors, ils confisquent leurs biens, leurs créances, et les expulsent du royaume.
Et il s'attaquera à d'autres communautés
Après, il prendra les marchands lombards. Oui. Et il finira par les Templiers. Fameuse histoire dont on se rappelle peut-être, les rois maudits. Et alors, par contre, il réussira jamais à mettre la main sur le trésor des Templiers, parce que finalement, le pape va le confier à un autre ordre religieux. Mmh. Mais bon, le but était très clairement de mettre la main sur l'argent.
Alors, taxer ce qui ne vous plaise pas, c'est aussi arrivé chez nos voisins belges. On est en 1909. L'homme politique Auguste Bernhardt vient d'obtenir le prix Nobel de la paix. Ça commence bien, cette histoire.
C'est très sympathique.
Sauf que c'est un prix richement doté, c'est ça?
C'est ça. C'est à peu près l'équivalent $1 million de nos jours, hein. Et Auguste Bernhardt est un ancien Premier ministre, était d'ailleurs assez riche à titre personnel.
Et il montrait un peu qu'il était riche, il s'en cachait pas trop,
et surtout il était un peu, depuis qu'il n'était plus Premier ministre, était un peu critique envers ses successeurs. Mmh. Alors ses successeurs ont dit, alors il n'y a pas d'impôt sur le revenu encore en Belgique à l'époque, en 1909, ouais. Hein, il va être mis en place par la réforme fiscale de 1920. Et donc le Parlement vote une loi disant, finalement, on va taxer le prix en argent du prix Nobel.
On va taxer les Nobel.
50%, sauf si le lauréat remet volontairement son prix à une fondation caritative agréée. Donc ça, c'était vraiment...
Soit vous donnez tout, soit on vous prend la moitié.
Voilà. Et finalement, la loi a été votée spécialement pour l'ami Auguste Bernhardt. Mmh. Il y en a un deuxième, un sénateur socialiste qui aura le prix Nobel de la paix en 1913, qui va passer à la caisse aussi. Un troisième, c'était Maurice Maeterlinck, qui a le prix Nobel de littérature, mais lui, il ne paiera pas parce qu'il était résident fiscal français. Mais avant le prix Nobel, il n'est pas venu pour ça. Oui. Et puis voilà, et donc c'est une taxe qui a été votée, qui a été payée par 2 personnes dans l'histoire.
Et qui a disparu après?
Elle était intégrée dans l'impôt sur le revenu, et avec maintenant, il y a des exemptions justement pour les prix internationaux. Oui. Généralement, sont exemptés dans beaucoup de législations fiscales. Bon. Mais ça, c'était vraiment pour... pour rabattre un peu son caquet à l'ami Auguste.
Ah, c'est pas mal. La taxe payée par deux personnes seulement, ils sont presque dans le livre des records. Vous avez encore, Jean-François Nimsgaard, plein de taxes folles en magasin. Tiens, par exemple, sur les papiers peints. Qui a inventé ça?
Alors, ça aussi, ça, c'est les Anglais, pareil, 18e siècle. Beaucoup, beaucoup d'imagination en Angleterre à l'époque. Et puis, alors, les gens, par contre, ont eu beaucoup d'imagination aussi. C'est-à-dire que comme le papier peint était taxé, ils allaient acheter du papier blanc et peigner dessus au pochoir. Donc, c'était plus du papier peint.
Ouais. Et en fait, c'est toute cette histoire, c'est un jeu du chat et de la souris.
Bien sûr, bien entendu. C'est à partir du moment où on a la même chose avec les Anglais, avec la taxe sur les chapeaux. Elle vous taxe les chapeaux, puis tout à coup, ben, les chapeliers inventent des trucs en disant « mais ça, c'est pas un chapeau, c'est un bonnet, c'est un béret, c'est ce que vous voulez ». Et il y a un contentieux qui a duré 50 ans pour savoir quelle était la définition légale d'un chapeau. Puis à chaque fois, on vous sortait autre chose. Bon, et puis la taxe a fini par disparaître.
Bon allez, on a un dernier petit exemple à vous proposer pour la route dans un court instant. Une taxe sur les savons, dans quel pays? Vous verrez bien. Et puis juste après, on vous dit tout sur les mollusques. Restez avec nous sur RTL.
14h-15h, RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Et on est toujours avec Jean-François Nimsgaard, spécialiste en droit fiscal, qui a débusqué pour nous les impôts les plus improbables de l'histoire. Allez, on termine par un autre record anglais, si j'ose dire, ou en tout cas une belle idée anglaise, une taxe sur les savons.
Absolument.
Ça date de quand, ça?
Milieu du XVIIe siècle, Cromwell.
Mais pourquoi Cromwell veut de...
Alors, parce que Cromwell est totalement puritain. Et on parle encore de fiscalité comportementale. Ouais. Comme généralement, quand on utilise du savon, c'est pour se laver. Et que pour se laver, on se déshabille. D'accord. Cromwell n'aimait pas du tout que les gens se mettent tout nus. Donc, il y a un gros problème avec ça. Et donc, pour dissuader les gens de se livrer à une activité qu'ils jugeaient immorale, eh bien, il a décidé de taxer les savons.
Complètement absurde. Ça a duré longtemps, ça?
Non, parce que ça n'a pas fonctionné. La noblesse anglaise, qui était principalement concernée, hein, malheureusement, l'hygiène n'était pas encore aussi répandue, n'est-ce pas, à l'époque, mais la noblesse anglaise a continué à se procurer du savon, y compris d'ailleurs un peu au marché noir.
Il y a eu un marché noir du savon.
Ouais. Ça a été assez rapidement abandonné.
Mais Cromwell, il a beaucoup utilisé le levier fiscal, comme ça?
Cromwell, il a fait que ça. Cromwell, il est en bonne place dans le livre. Cromwell, il a inventé un truc génial aussi, il a inventé une taxe sur l'opposition. C'est-à-dire que comme il est arrivé au pouvoir en se battant contre les royalistes, il s'est dit, comme il y a des royalistes, je suis obligé de financer une police pour chasser les royalistes, donc je vais taxer les royalistes pour financer la police qui les chasse.
Méfiez-vous, ça va donner des idées à ceux qui nous gouvernent. Merci beaucoup Jean-François Nimsgaard. Votre histoire des impôts improbables est publiée aux éditions des Belles Lettres. Mais quand même, pour être juste, j'ai vu au journal de 20h hier que le plein coûtait moins cher aujourd'hui qu'en 2013 et que le budget carburant des Français n'a pas augmenté depuis 70. Ça vous surprend pas?
Non, c'est pas comme on disait tout à l'heure. Techniquement, alors si on raisonne en francs constant, évidemment, il faut intégrer l'inflation. Ouais. Et puis, il faut intégrer le fait que les véhicules consomment beaucoup moins.
D'accord, ça explique
donc
le fait
ceci
que
explique cela.
Même avant les chocs pétroliers, ça pouvait coûter...
C'est vrai. Alors, la taxe sur le pétrole, elle a vraiment changé de nature au moment du choc pétrolier. Mmh. Elle est mise en place en 1928, c'est une taxe de subvention, on va dire, pour subventionner et financer l'industrie du raffinage. Et à partir du choc pétrolier 73, ça devient une taxe comportementale pour inciter les gens à moins rouler, pour inciter les constructeurs à faire des voitures propres. Et j'en termine là.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.